Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi 25 mai. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Les prévisions météo sont exceptionnelles. Alors, tout doucement, mais sûrement, on s'en va vers des journées d'été. Aujourd'hui, ça demeure correct, là, autour de 17 degrés. Disons que la température maximale moyenne est autour de 20. Alors, c'est un peu plus frais. Seul lit ce matin. La nuit prochaine, 4 degrés. Mais dès demain, on passe à 22 avec du soleil. Samedi, du soleil 25. Dimanche, du soleil 28. Lundi, 26 degrés. Et puis mardi, mercredi prochain, au-dessus de 30 degrés. Même on pourrait atteindre 33 degrés pour la journée de mercredi prochain. Donc vraiment, période de chaleur appréciée. Et c'est vrai que le mois de mai est un mois où on a peut-être passé par l'ensemble des conditions météo, c'est-à-dire du temps chaud, du temps frais, des précipitations, du vent. Mais là, c'est une période vraiment de beau temps. Ce matin, j'ai envie de commencer cette revue de presse en vous parlant de Tina Turner. Bien sûr, depuis hier après-midi, depuis l'annonce de son décès à l'âge de 83 ans, les témoignages sont nombreux. On va en reparler avec Catherine. On sait qu'elle est décédée en Suisse, où elle vivait depuis plusieurs années, 83 ans. Elle avait des problèmes de santé quand même importants depuis quelques années, AVC, cancer, grève de rein. Et disons que ça a été difficile ces dernières années. Mais c'est une femme, au-delà de ses succès, tout à fait remarquable. J'ai vu il y a quelques années cette pièce, j'allais dire comédie musicale, mais c'était une forme d'éloge à Tina Turner, où on repassait sa vie. Et c'est une vie marquée d'abord par la pauvreté, mais par aussi des années à se bâtir une carrière et tout un caractère. Et avec son conjoint violent, on s'est rendu compte qu'il, dans un premier temps, l'avait pris sous son aile. Tina Turner l'avait complètement éclipsé et ça le frustrait. Elle avait une présence spectaculaire. Et autant elle avançait dans la vie et dans sa carrière, je pense qu'on peut dire qu'elle a inspiré beaucoup de femmes. Une femme noire, partie du Sud, qui a changé de nom, qui s'est fait battre, qui a vécu la pauvreté, qui a été capable de se libérer de la violence pour ensuite vraiment prendre son envol. Et la meilleure façon de, je pense, se souvenir de Tina Turner, c'est de partager avec vous ce matin une partie. C'est court, c'est pas long, mais ça vous donne, je pense, une bonne idée de cette chanteuse absolument remarquable.
Yeah. said a kiss will bring him to his knees.
Je termine en vous disant que il y a des fans, bien sûr, qui se sont rendus porter des fleurs, laisser des messages devant une espèce de résidence qui est en fait un château, un portail qui est assez majestueux, le château Algonquin, c'est près du lac Zurich. Et je ne sais pas combien de fois j'ai vu cette carte revenir « You were simply the best ». Alors, vraiment, les gens qui ont insisté pour témoigner avec ses bougies, ses souvenirs et tout ça. Et je termine en disant qu'elle vivait en Suisse depuis quelques années avec son conjoint, depuis 2013. 3 mois après l'avoir épousé, elle a obtenu la nationalité suisse. Elle a renoncé à sa citoyenneté américaine. Et pour obtenir sa citoyenneté en Suisse, elle avait dû apprendre l'allemand, parce qu'on est dans la partie allemande de la Suisse, et la culture et les règles du pays. Ça faisait partie d'un examen pour obtenir donc sa nationalité. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en Ukraine. Il semble que les troupes du groupe Wagner quittent Bakhmout. Donc, ça semble confirmé. L'armée ukrainienne qui affirme que la défense qui protège la capitale Kiev avait repoussé une nouvelle attaque massive de drones russes. Il y a Washington qui approuve la vente de systèmes avancés de missiles, parle de 285 millions. Également, les Américains sont à peu près convaincus que la présence de drones près du Kremlin, qualifiée par les Russes d'une tentative de meurtre contre Vladimir Poutine, avait été orchestrée par l'Ukraine. Alors, ce sont des prétentions du gouvernement américain, mais sans plus. Et on évalue enfin qu'entre 10 000 et 50 000 détenus recrutés dans les prisons russes par le groupe Wagner ont été tués en Ukraine. Donc, on a pris des prisonniers pour en faire des miliciens. Et tous ces gens-là ont perdu la vie. Un mot aussi sur la candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans la course à la présidence des États-Unis. D'abord, ça a été un échec lamentable sur le plan technique, là, avec Twitter. On peut pas dire que Elon Musk, qui a hébergé la présentation de la candidature, a beaucoup de succès avec les lancements. Rappelez-vous sa fusée qui avait explosé. Et puis Twitter, qui s'est effondré hier, lui-même était furieux. Et donc, il y a eu des coupures, le son était difficile, les gens avaient de la difficulté à pouvoir se connecter. Donc, c'est un départ un peu chaotique pour DeSantis, qui, en résumé, se veut aussi à droite que Trump, sans les excès, sans les folies. Mais on l'a vu, son parcours en Floride dans les dernières années, qui est un parcours, évidemment, où la religion prend beaucoup de place. Son obsession sur les woke, son obsession sur les transgenres et tout ça. Alors, c'est le début de sa plateforme. On sait qu'il est en confrontation avec Disney sur la gestion de taxes de terrain, mais aussi c'est une bataille idéologique qu'il mène quand même sans relâche. Alors, c'est il reste quand même loin dans les sondages. C'est toujours Trump, malgré sa condamnation, qui demeure en avance. Et justement, parlons de ça. Avec le bordel qu'on a connu en fin de semaine, l'espèce de promesse de post-mortem du ministère des Transports, eux-mêmes ont été étonnés de l'impact de la fermeture. Et je le rappelle, c'est la voie qui mène à l'aéroport Montréal-Trudeau. À part quelques autobus, disons que l'offre de transport en commun est plus que limitée. Et il n'y a pas, comme dans les grandes villes du monde, des connexions directes centre-ville, aéroport. Premier constat. Le deuxième, un plan de communication qui est d'une nullité au ministère des Transports. Et hier, la ministre Geneviève Guilbeault a ce qu'on appelle pris le singe et l'a placé sur les automobilistes en disant, puis elle a raison, sur le fond. allez vous informer avant de vous déplacer.
Que les gens puissent savoir d'avance les chantiers qu'il va y avoir, puissent avoir le réflexe d'aller s'informer sur le 5-1-1 notamment. Alors, on voit les meilleurs moyens pour le meilleur taux de pénétration pour que les gens développent ce réflexe-là d'aller s'informer des chantiers et prévoient leur déplacement.
Bon. En résumé, oui, il faut s'informer, mais les méthodes de communication utilisées par le MTQ sont désuètes, ne tiennent pas compte de la réalité des gens, et ça ressemble à quoi? Un PowerPoint présenté entre fonctionnaires. Et ça ne peut pas se limiter à « j'ai envoyé un courriel, j'ai contacté les parties prenantes, j'ai fait un mémo, j'ai ajusté le web ». Ça ne peut pas être ça, là. On est en 2023. Ça prend une présentation plus claire. Ça prend des messages à répétition. Surtout quand on parle d'une fermeture comme celle de la fin de semaine dernière. Puis là, on le voit avec le tunnel Ville-Marie. On entre dans la période des grands travaux. Et malheureusement, la poussière sort par les fenêtres du ministère. Tellement c'est pas très convivial. Et surtout, surtout, c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir accès de cette façon-là à l'information. Et là, je vais reprendre les mots que les politiciens et politiciennes adorent nous servir. C'est le moment au MTQ de passer dans l'agilité, d'être souple, d'être innovant, de nous surprendre, d'être bienveillant avec les automobilistes. Tous les qualificatifs, là, un peu pompeux et ronronnant qu'on nous sert. Puis c'est une préoccupation pas juste d'automobilistes, mais du président de la Chambre de commerce à qui on va parler, des gens qui vont arriver les touristes à Montréal. T'as dit que c'était un bel accueil. Donc, il y a une prise en charge nécessaire. Est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Je suis loin d'être certain, mais au moins, il faut le dire. Il faut identifier le problème. Oui, l'automobiliste, vous avez votre responsabilité, puis vous devez un peu regarder ce qui se passe autour de vous, puis pas partir à l'aveuglette. Mais le MTQ a un travail titanesque pour rendre ça accessible, intelligent, clair pour la population. D'autre part, quand on parle de la population, au Québec, là, les chiffres sont sortis hier concernant l'ensemble de la population, il y a certains constats qu'on peut faire. D'abord, nous sommes 8,8 millions de Québécois, première chose. Deuxièmement, on fait pas trop de bébés non plus. Je regardais dans la presse ce matin le tableau. C'est quand même impressionnant de voir, je sais pas pourquoi, mais sur la Côte-Nord, on fait quand même pas mal d'enfants. Mais c'est vraiment là, l'exception. Et pour ce qui est de l'espérance de vie, c'est à Laval où les gens semblent vivre plus longtemps. Ça tourne autour de 82 ans. Bon, l'immigration aussi, qui est un facteur important pour augmenter la population. Il y a un vieillissement. Et l'autre chose, c'est que le poids du Québec, et ça c'est une réalité là brutale, diminue décennie après décennie. C'est-à-dire que le poids démographique baisse et le poids politique du Québec au sein du Canada est aussi en train de diminuer. Et c'est important pour les débats des prochaines années. Quel sera le rapport de force du Québec? Dans les autres nouvelles, je sais qu'à Québec, là, puis Jonathan nous le disait, on tape du pied à propos de l'échec de l'examen de l'Ordre des infirmières. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose, là. C'est pas vrai que toutes ces infirmières sont incompétentes, puis ça vient comme défaire le plan pour amener du sang neuf dans le réseau de la santé, pour s'assurer d'améliorer le service à la clientèle. Il y a eu rencontre hier à Québec avec notamment le ministre Christian Dubé. En parlant d'examen, Katia Gagnon nous apprend ce matin qu'ils ont fait un test à l'école du Barreau. On a fait passer l'examen à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle ChatGPT. Et la note finale obtenue par l'intelligence artificielle, qui nous est présentée avec raison là, comme une menace si c'est pas encadré, ben c'est 12%. Et vraiment, là, c'est un échec retentissant. L'examen a été soumis avec des consignes précises. On lui a énoncé le contexte des questions, les textes de loi auxquels il devait référer. À chaque réponse, on lui a indiqué qu'il devait citer des articles de loi précis. On lui a offert la possibilité de reformuler ses réponses avec des directives encore plus précises. Bref, on a aidé l'intelligence artificielle et ça a été zéro dans deux sections sur trois. Et tout ça a été évalué par une conseillère à la direction de l'école du barreau. Il y avait également une responsable des évaluations et le directeur de l'école du barreau, maître Lamy, était présent. Alors, c'est intéressant à voir. Puisqu'on parle d'informatique, juste vous dire que la Société d'assurance automobile du Québec, c'est encore le bordel, là, pour bien des gens. On le voit, des files d'attente. Là. On en parle moins parce qu'on s'habitue, là. Mais il y a un auditeur, par exemple, qui dit qu'il n'a pas été capable de tenir un rendez-vous avant le mois d'août, même juillet. Il a essayé sur l'application, ça n'a pas marché. Il est allé sur le site, ça a fonctionné. Et, tenez-vous bien, nous apprenons que Québec va injecter pas loin de 8 milliards en projets informatiques. Ça va toucher la santé, les finances, Revenu Québec. Donc, santé et services sociaux, c'est pas loin de 2 milliards. Le réseau de l'éducation, 957 millions. Et tout ça va transiter en partie vers le ministre responsable Éric Kerr. Est-ce que vraiment on veut confier la responsabilité de 8 milliards d'investissements à Éric Kerr, qui a échoué lamentablement? Le ministère se vide de... Enfin, des gens qui quittent. Pas trop ce qui se passe dans ce ministère-là, là, mais il y a beaucoup de va-et-vient. Et on sait qu'avec Éric Kerr, quand ça plante, c'est pas de sa faute. C'est le genre là, de ministre qui prend pas à chaleur, là, qui va redescendre ça ailleurs. Alors, tu te demandes exactement à quoi il sert. Mais si on n'a pas été capable de planifier l'implantation d'un nouveau système à la Société d'assurance automobile du Québec, stand-by pour le reste, avec, disons, sans doute, des gaufres à venir. Rapidement, des cas d'agression sexuelle, on a tous, et on en a beaucoup parlé ici, là, été frappés par le nombre d'adultes qui interviennent auprès d'enfants, là, des entraîneurs, des profs, qui ont été coincés dans des histoires d'agression, de leurre. Et ce qui est frappant, c'est de voir une augmentation importante des signalements, donc des plaintes qui arrivent des jeunes, des ados qui se font coincer. Et on le sait, là, pas tout le monde qui porte plainte, mais il y a quand même une augmentation importante. Les jeunes de 12 à 17 ans qui sont touchés par le phénomène. En 2021, il y en a eu 2700 qui ont porté plainte pour ces infractions. C'est deux fois plus que cinq ans auparavant. Et également, il y a une enquête, nous dit Le Devoir, au Centre de services scolaires Marie-Victorin, qui a été initiée par l'UPAC après qu'un cadre qui a été renvoyé a mobilisé des employés syndiqués pour travailler dans un de ces immeubles de logement. Alors, on verra la suite, évidemment, de cette histoire-là. Très bien, ça fait le tour de nos manchettes.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ben, on va parler des chantiers et surtout de l'impact sur les automobilistes, des bouchons, comme on a vu en fin de semaine, pour ce qui est de l'A20 qui mène à l'aéroport Montréal-Trudeau. On sait que Ville-Marie sera fermée en fin de semaine. La fermeture qui a touché l'A20 le week-end dernier va se répéter lors de la fête du travail. Puis on sait que de toute façon, la liste des chantiers, à partir de maintenant, va s'allonger jusqu'à l'automne prochain avec tous les impacts. Alors, il y a plusieurs enjeux, évidemment. Et je vais en parler d'abord avec Michel Leblanc, qui est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour.
Bon matin, monsieur.
on comprend tous là l'importance de faire les travaux. Il faut rénover, il faut reconstruire nos infrastructures. Mais vous, ce que je comprends, vous pointez du doigt la façon de communiquer puis la façon de préparer les Montréalais puis les touristes à ces travaux majeurs.
C'est exactement ça. La première chose, là, quand on entend les fonctionnaires dire « Écoutez, on n'a pas le choix, il faut faire les travaux », ben on en est tous, on en convient. Il faut les faire, puis il faut les faire de façon sécuritaire. Donc, s'il faut fermer, ben il faut fermer. Mais une fois qu'on a dit ça, ça peut pas être de dire aux citoyens « Débrouillez-vous, allez chercher de l'information sur le web quand vous vous déplacez ». On doit faire beaucoup plus. Le ministère dit « Nous, on a mis une quinzaine de panneaux sur l'île, puis ça arrive sud. » Ben c'est quoi mettre des panneaux sur le bord d'un chemin, là? C'est pas ça la solution. Et dernier point, c'est ça nous prend des trajets alternatifs. Il faut que les gens, ça soit clair d'avance. Cette autoroute-là est fermée. Ben prenez, là, si on va à l'aéroport, ben ceux qui connaissent Montréal, prenez des carrés, prenez Métropolitain, revenez par la 13, puis vous allez contourner le fameux blocage. Mais si c'est pas fait, ben les gens se trouvent à être pris dans le chantier, à être pris dans la congestion. Puis là, ça fait mal. Ça fait mal aux citoyens, puis ça fait mal aux visiteurs.
OK, mais comme mesure concrète, là, vous proposez quoi? Un site web plus convivial, des campagnes de pub? Vous pensez à quoi exactement?
Bien, la première chose, c'est qu'il existe un outil. Là, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour la ministre Guilbeault. Là. Juste entre nous, là, dans les 12 dernières années, il y a eu 9 ministres des Transports. J'ai la liste devant moi. Ça veut dire que c'est le ministère des Transports qui a déterminé sa culture. C'est pas un ministre qui a changé comment le ministère des Transports travaille. Et là, l'enjeu, c'est il faut qu'on ait un outil qui s'appelle Mobilité Montréal. C'est un comité qui existe. On se rencontrait jadis. Puis là, les fonctionnaires, tout le monde arrivait avec « Voici les travaux qui s'en viennent. Voici les mesures qu'on va mettre en place pour communiquer avec la population. Voici comment le transport en commun va s'ajuster pour offrir des options. » Puis finalement, voici comment on va coordonner et planifier et communiquer tout ça. Ça forçait tout le monde à s'aligner d'avance. Ça forçait
Mais
tout le monde
attendez,
à trouver les
meilleurs solutions. Je vous arrête, là. Pourquoi vous parlez au passé?
Parce que ça fait 5 ans que ce comité directeur-là s'est pas réuni. La ministre Guilbeault, il y a un mois, est venue à la Chambre et nous a dit à tout le monde, je vais réactiver ça. Bon, on est un mois après, là, c'est peut-être très rapide, mais la question, c'est depuis 5 ans, depuis en fait 2018, il n'y a plus cette rencontre du comité directeur qui, à 2 moments dans l'année, recevait toutes les informations, puis ça forçait tout le monde à se préparer pour cette fameuse rencontre-là. Et donc, tout le monde à se parler, tout le monde à communiquer les plans, puis éventuellement dire comment on va s'ajuster. Ça n'a pas lieu. Donc, ça veut dire que les comités techniques se rencontrent. Moi, je suis sûr que les gens du ministère des Transports, les gens de la Ville, les gens qui font des travaux, là, se rencontrent. Mais l'enjeu de la communication, là, pour l'instant, je suis pas sûr que c'est leur priorité du tout. Puis c'est là que ça, c'est
okay,
là que ça,
mais...
ça s'arrête.
Je suis un peu étonné de ce que vous me dites pour la raison suivante. Le ministre des Transports de l'époque, là, un de ceux qui sont sur votre liste, le Robert Poietti, est venu à ce micro dire que le comité était en dormance et qu'il avait réactivé le comité. Là, ce que vous me dites, c'est que le comité est retourné en dormance puis que là, la ministre Guilbeault vient de vous dire qu'elle va le réactiver.
C'est exactement ça. Robert Poietti était ministre de 2014 à 2016. Il l'a réactivé. Et depuis 2018, donc depuis le ministre André Fortin, ça s'est pas réuni. Il y a eu M. Bonnardel depuis, puis là, Mme Guilbeault est arrivée en 2022, il y a quelques mois. C'est exactement ça. M. Poitiers l'avait réactivé à la demande du milieu. Ça avait été suspendu par M. Gaudreau, qui avait été ministre avant. Je l'ai la liste devant moi, je peux vous les nommer un après l'autre. Ce qui manque, comme je le dis, c'est un changement de culture au ministère des Transports. C'est pas les ministres successifs qui ont pas compris, c'est que le ministère est resté figé dans certaines façons de faire, notamment au niveau de la communication puis de la planification avec le milieu.
Dans toutes les grandes villes du monde, il y a des chantiers. Partout. Je suis allé à New York en fin de semaine, je suis allé en Europe l'été passé. Il y a des chantiers partout. Vous voyagez aussi, là, vous promenez un peu, là. Qu'est-ce qui se fait ailleurs qui pourrait bénéficier à Montréal puis qu'on fait pas encore?
J'ai l'impression qu'ailleurs, on n'est pas dans l'improvisation. Moi, il m'est arrivé, comme vous, là, d'arriver puis d'avoir un chauffeur de taxi qui m'explique qu'on va prendre un chemin plus long, mais parce qu'il y a un pont qui est en réfection, puis c'est tout simple. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qu'on fait de mal ici, c'est d'arriver avec des trajets alternatifs, penser d'avance, communiquer d'avance, puis qui fait que les gens vont, oui, peut-être aller voir sur le 511, le fameux 511, mais surtout que dans tous les médias et dans tous les milieux, puis là, c'est le milieu du camionnage, c'est le milieu du taxi, c'est les milieux d'entreprises comme nous, on va communiquer à tout le monde. Mais si on a un plan d'avance, c'est plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont être surpris, mais on va diminuer la confusion, puis on va faciliter l'adoption de mesures alternatives, de trajets alternatifs. Là, pour l'instant, là, puis ça veut dire travailler avec les Google, les Waze de ce monde, les Plans, toutes les applications qui font que tu es dans ton auto, puis là, tu comprends rapidement qu'on te dit de passer ailleurs parce que c'est fermé. Fait que ça, il faut que ça soit fait aussi en temps réel. C'est une approche qui vise le citoyen pour lui faciliter la vie.
Parfait. Merci, M. Leblanc. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Michel Leblanc est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis des échos similaires venant de l'industrie touristique, des gens qui débarquent à Montréal puis qui sont pris dans le foutu bordel. Sarah Bensadoun est avec nous du ministère des Transports et de la Mobilité. Madame Bensadoun, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Monsieur Leblanc.
Tout à fait.
On va tous convenir de l'importance de faire les travaux, puis que des travaux, ça implique des fermetures de route pour un week-end. On comprend tout ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais ce qu'il soulève est quand même préoccupant, là. La communication, la façon de dire aux automobilistes, voici ce qui se passe et voici ce qui s'en vient, là. Puis là, je sais, vous êtes la porte-parole, vous êtes l'agneau sacrifié, c'est pas personnel, mais le ministère gagnera pas un prix, là. C'est pas fort, votre affaire.
Ben, c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé le week-end dernier, on est en train de faire un débriefing de ce qui s'est passé, parce que c'est sûr que la journée de samedi était un événement quand même assez exceptionnel. On ne s'y attendait pas nous-mêmes. Ça ne faisait pas partie de nos scénarios qu'on avait travaillé, de nos scénarios de mobilité. Ce qui ressemblait plus, c'était ce qui s'est passé dimanche ou lundi, c'est-à-dire un retard d'une trentaine de minutes. Donc, est-ce que c'est la façon de communiquer? Est-ce que c'est la coordination? Ça, pour l'instant, on est encore en train de le déterminer, de voir comment est-ce qu'on peut travailler mieux, comment est-ce qu'on peut travailler différemment pour rejoindre la population. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà.
Mais par exemple, là, oui. Le fameux site, là, la ministre parlait hier du 5-1.
Oui.
Je suis allé voir ça très souvent. Les commentaires que j'ai, là, c'est préhistorique, c'est pas convivial, c'est pas 2023. On va là-dessus, là, puis je l'ai testé, là. C'était pas clair là que c'était un chantier majeur. Là. Il fallait gratter pour le trouver, puis là, c'est indiqué. Ce que je veux dire, là, quelqu'un qui va sur votre site, il sait pas automatiquement que la 20 vers Dorval, Montréal-Trudeau, ça va être un problème ce week-end-là.
Alors en fait, le site, il est fait, c'est vrai qu'il n'est pas nécessairement comme on s'y attend toujours. C'est un site à but informatif, donc ça nous permet pas de planifier les déplacements dans le sens du point A au point B, comment est-ce que je fais pour y aller. Ça nous dit quel est le chemin qu'il faut éviter, c'est ça la différence. Donc ça va indiquer les fermetures, la durée de la fermeture et la nature aussi de la fermeture. Est-ce que c'est pour des travaux, est-ce que c'est parce que je sais pas moi, il y a un accident sur le réseau routier, donc c'est de ce côté-là que c'est fait. Donc il y a la version web, il y a la version en ligne sur le téléphone, l'application. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de mieux? Ça fait partie des éléments qu'on va regarder avec nos différentes.
Mais depuis le temps qu'on parle de ça, comment ça se fait qu'on est toujours en train de se dire on en parle, on fait post-mortem, on fait un mea culpa, puis on recommence.
Ben, c'est un travail qui se fait en continu, hein. C'est sûr que ça ne s'arrête pas demain. Donc, il y a toujours place à amélioration, et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui se fait en continu.
OK, mais encore avec tout respect, j'ai l'impression des fois que vous vous parlez entre vous, et que l'automobiliste, c'est pas la grande préoccupation. Là. Je comprends, il faut planifier les chantiers, faites votre job, vous dites, ben, on vous l'a dit que tel bout de route, il serait fermé en fin de semaine. Mais est-ce qu'au ministère, il y a quelqu'un qui se dit comment je vais aider l'automobiliste, comment je vais faciliter ses déplacements à travers les chantiers?
Alors, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est comme ça qu'on travaille. C'est avec l'usager de la route en tête qu'on travaille, qu'on prévoit nos différents scénarios de mobilité, les chemins de détour, qu'on regarde avec les partenaires. Bon ben, moi j'ai une fermeture sur tel axe, je vais les mettre sur ton chemin. Est-ce que ça, t'as des entraves? Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. D'ailleurs, pour cette fin de semaine, on a une fermeture au niveau des tunnels Vigier-Ville-Marie. On sait qu'on va avoir une partie de la circulation qui va être sur le réseau montréalais, donc l'avenue Vigier, l'avenue Saint-Antoine. Donc on avait vérifier avec eux d'avance. On sait qu'il va y avoir aussi des entraves sur ces axes-là. Donc, on a fait en sorte de libérer d'autres axes routiers pour faciliter le transit.
Je vous donne un exemple.
Oui.
Cette nuit, il y a eu des travaux dans Ville-Marie.
Oui.
On a fermé Ville-Marie.
Oui.
Est-ce que ça a été annoncé à l'avance? Est-ce qu'il y avait des messages, signes variables qui indiquaient aux gens que c'était fermé?
Oui, on utilise nos panneaux à messages variables dans la région de Montréal.
Où on les voit pas, où ils sont cachés. J'ai plein de collègues qui sont arrivés cette nuit, là, puis qui m'ont dit, on s'est heurté à la fermeture. Avoir su, on serait passé ailleurs.
Non, on l'annonce tous les jours. Donc.
Mais comment vous l'annoncez?
Alors, il y a plusieurs façons. Donc, il y a les panneaux à messages variables. Donc, quand on est sur le réseau routier, on les voit, c'est affiché. Il y a évidemment notre site web. Il y a le site web et de Mobilité Montréal et le 511. On a des communiqués de presse qui sont envoyés. On fait des qui sont envoyés évidemment aux chroniqueurs à la circulation. Donc, il y a quand même plusieurs outils qui sont mis en place, mais c'est quelque chose qui doit se faire quotidiennement.
Mais est-ce que, regardez, je vous écoute là.
Oui.
De deux choses l'une, là. Ou on est cave, puis on comprend pas, puis que on a de la misère à utiliser vos outils, ou dans votre univers, ça a l'air très clair, parfait, mais en pratique, ça marche pas. Parce que visiblement, il y a un problème.
Ben justement, c'est justement ce qu'on est en train de regarder en ce moment. Donc, il y a déjà eu une première rencontre mardi avec nos partenaires de Mobilité Montréal. Il y a une autre rencontre hier à l'interne. Ça va se poursuivre encore jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Ce qui est aussi sûr, c'est qu'on va aussi annoncer les chantiers pour la période estivale. Donc, ça va se faire au cours des prochaines semaines, d'ici 2-3 semaines. Donc, notre objectif, c'est vraiment, là encore une fois, de rejoindre le citoyen et de lui dire, au cours des prochains mois, voici à quoi il faut s'attendre en termes d'entraves. Et on sait qu'il va y en avoir beaucoup jusqu'à, je vous dirais, octobre-novembre. Et ça peut aller jusqu'en décembre. Donc oui, il va y en avoir des entraves.
Je ne vous demanderai pas le détail ce matin des chantiers, là, mais ce que vous nous dites, c'est qu'il va y en avoir beaucoup.
Il va y en avoir beaucoup, énormément.
Plus que l'an passé?
Ça va être des entraves. On est toujours autour d'une quarantaine, cinquantaine d'entraves majeures dans la région métropolitaine. Il y en a beaucoup plus que ça, mais celles avec des répercussions majeures, oui, on est toujours 45, 50, ça risque d'être dans cette zone-là. Par contre, on va venir travailler un peu partout et c'est ça qui est plus problématique au niveau de la planification des déplacements. Il va y avoir des entraves sur les réseaux du ministère, sur les réseaux des municipalités. Donc là, encore une fois, il va falloir savoir naviguer et prendre le réflexe en fait de regarder le Québec 5-1, même si c'est pas un outil qui est parfait, on est d'accord.
Non, ça c'est pas.
Mais au moins, ça va permettre de s'informer.
Mais
de
quand
dire...
la mairesse de Montréal dit que finalement, c'est au ministère à prendre la balle puis à s'arranger pour que la communication passe. La mairesse, là, le fameux comité, là, est-ce que la ville participe à ça?
Oui.
Puis là, vous savez que si vous, par exemple, en fin de semaine, vous envoyez le trafic sur Vigée, la ville est au courant.
Absolument.
Ils vont prévoir qu'il y a, par exemple, des policiers aux intersections pour faciliter la fluidité.
Oui. Alors, oui, on se parle. Les partenaires, on se parle tous les jours. Les élus aussi sont avisés. Donc, et notre ministre.
Et le comité qui est en dormance, là?
Le comité directeur. Alors, le comité directeur, il a pour but, en fait, de donner les grandes orientations, la vision de Mobilité Montréal. Ça, c'est co-présidé et par la ministre des Transports et aussi par la
mairesse. Mais est-ce que c'est vrai que c'est en dormance?
C'est vrai que ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de rencontre, mais ça n'empêche pas que le travail des équipes techniques se fasse en continu. C'est ça le plus important, je vous dirais.
C'est comme si vous me disiez, il y a un conseil des ministres qui se réunit jamais, mais que les fonctionnaires en dessous travaillent.
Ben, tous les partenaires se parlent, et c'est ça le plus important, parce que ça nous permet justement de coordonner nos entraves et parfois de s'insérer dans les fermetures des uns et des autres pour travailler en même temps et éviter qu'on en fasse d'autres.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Au revoir. Sarah Bensadoun est du ministère des Transports et Mobilité Montréal. On a retrouvé l'extrait de Robert Poitty, qui date de quand, Richard? As-tu le moment... Mars 2015, ça fait quand même 8 ans, et M. Poitty nous annonçait une grande nouvelle.
Ce qu'il faut faire, c'est que ça s'appelle Mobilité Montréal. J'ai réactivé Mobilité Montréal, qui est en dormance. J'ai des rencontres, là. Je vous dirais pas que...
Attendez, vous m'avez dit que Mobilité Montréal était en dormance? Oui. La réponse était oui. Et c'est retourné en dormance. Et là, ça vient d'être sorti du congélateur par la ministre Guilbeault. Ce matin, on va commencer par le décès de Tina Turner. Évidemment, une chanteuse absolument extraordinaire, une personnalité forte, une vie marquée par des épreuves. Elle est décédée à l'âge de 83 ans dans le secteur de Zurich en Suisse où elle vivait depuis quelques années. Elle avait laissé tomber la citoyenneté américaine, pris la nationalité donc helvétique, avait appris l'allemand pour obtenir cette citoyenneté, appris les règles, les lois du pays. Et donc, elle est décédée après avoir éprouvé des ennuis de santé importants, on le disait, au cours des dernières années. Mais depuis hier, vous le savez, les témoignages sont nombreux, des gens qui se présentent devant son château, devant le portail, laissent des fleurs, des bougies, des messages. Donc, ça touche évidemment beaucoup de gens. Catherine est avec moi ce matin parce qu'on va en parler avec Sylvie Brunetta. Elle fait partie des légendes du show à Montréal. Elle était directrice des relations médias et du marketing pour le producteur mythique, on pourrait le dire, Donald K. Donald, qui contrôlait la ville puis les spectacles avec les grandes vedettes de 1985 à 1998. Sylvie, bonjour.
Bon matin.
Première chose, parle-moi de Tina Turner. Tu l'as connue comment la première fois puis comment ça s'est passé?
C'était en août 84. Son gérant lui avait suggéré de repartir sa carrière en faisant des petites salles, c'est-à-dire des clubs. Alors, Montréal aura été au Spectrum et elle a donné une conférence de presse cette journée-là. Et j'ai dû organiser sa conférence de presse. Vous savez, Paul, quand on travaille dans cette industrie-là, on croise plein de grandes vedettes. Mais il y en a qui te marque plus pour... Il y en a deux qui m'ont bien marqué comme étant des êtres très, très spéciaux. Il y avait Leonard Cohen, que quand j'ai été en sa présence, je savais que j'étais devant quelqu'un qui avait un aura. Et la deuxième, ça aurait été Tina Turner. Elle dégageait... C'est mon impression d'une jeune dans la fin vingtaine à l'époque. Alors, je suis à côté de cette femme et je travaille sur cette conférence de presse-là. Et il y a un aura alentour de cette femme-là. Et évidemment, l'histoire le dit, tout ce qu'elle a dû passer à travers pour arriver à tout ça. C'est le premier...
Oui, mais dis-moi, comme tu dis, on croise beaucoup de gens, t'as croisé beaucoup d'artistes. Il y a le talent, bien sûr, mais on a l'impression qu'au-delà de son talent brut, c'est une femme qui avait une force incroyable, qui est devenue un modèle, pas juste pour des artistes, là, mais pour beaucoup de femmes noires américaines.
Ah oui, tout à fait. C'est une femme d'exception et d'avoir dû à... se réinventer dans la jeune quarantaine et d'aller au-delà de la carrière qu'elle avait eue dans les années 60. Et tu ne verras plus jamais ça là, dans l'histoire de la musique, là, de se réinventer avec l'aide de ce gérant qui était visionnaire du nom de Roger Davies. C'est lui qui l'a propulsé, où c'est qu'elle voulait aller. Et elle est allée loin là, quand on pense qu'elle a chanté dans des stades au Brésil de 120 000 personnes. C'est incroyable là, d'avoir eu... Mais tout ça, là, ça a rapport avec ce talent-là exceptionnel. Et toute sa vie personnelle, c'est quelque chose. Et l'année suivante... Donald réussit à convaincre son gérant de venir au Canada et de venir faire ses répètes pour sa tournée mondiale à Saint-Jean-Terre-Neuve. Alors, elle a passé 10 jours à Saint-Jean-Terre-Neuve à faire les répètes et elle a accepté de rencontrer les médias et des locaux dignitaires, en autant qu'on lui laisse la paix après ça. Alors, elle a fait ses 10 jours de répète et elle est partie, elle a commencé sa tournée à Saint-Jean-Terre-Neuve, 3 spectacles, et elle a quitté, quand elle a quitté Saint-Jean-Terre-Neuve, elle s'est en allée à Philadelphie, aller participer au concert bénéfice de Live Aid, où elle chante avec Mick Jagger. Et le lendemain, elle était sur scène à Fredericton. Quand même, là, quand tu penses...
C'est incroyable. C'est incroyable.
Et Sylvie, vous l'avez côtoyée personnellement. Vous êtes l'une des rares, quand même, ici au Québec. Comment elle était au niveau plus personnel? C'est-à-dire, travailler avec elle. On dit souvent qu'elle était extrêmement gentille. Vous avez parlé d'un aura quand même spectaculaire. Comment c'était?
Oui, tout à fait. Tu voyais que c'était... elle était attentionnée. Elle était intéressée. Ça a été une belle journée cette journée-là et j'ai suivi bon tout ça. On a fait plusieurs tournées avec elle après. C'est d'exception. On ne verra plus jamais ça, quelque chose comme ça là. Ça se passera plus. L'autre chose que j'ai trouvé que c'était une femme formidable, elle a dit quand elle a décidé de quitter la business, elle a dit moi je ne continuerai pas avec une robe longue puis des gants à chanter de la musique de l'ange. Moi, je suis Tina Turner et les gens s'attendent à voir Tina Turner. Et pour ça, j'ai énormément de respect pour elle. Elle, elle a décidé que c'était tout et parce qu'elle n'aurait pas pu continuer à donner, parce que quand on regarde les images là.
Non, c'est une artiste. Oui, tout à fait. Elle a bougé avec les petites robes courtes aussi, puis les grandes jambes.
Mais une petite anecdote. Il paraît que tu as trouvé qu'elle avait un rouge à lèvres intéressant.
C'est tellement drôle que qu'est-ce que la mémoire a pu se rappeler. Je me rappelle qu'elle avait ce rouge à lèvres corail puis je me disais, mon Dieu, j'en devrais, mais tu sais, je peux pas mettre ça, j'ai pas la même peau qu'elle, évidemment, mais elle avait un rouge à lèvres corail du tonnerre.
Mais elle assumait ce look-là aussi avant bien d'autres.
Ah oui, tout à fait. Mais quelle femme, quel privilège d'avoir. D'avoir travaillé avec elle, puis d'avoir une belle photo avec elle. Cette journée d'août 1984, c'était fantastique. Vraiment, c'est une grande perte parce qu'il n'y en aura plus jamais des prix maintenant.
Merci beaucoup, Sylvie. Bonne journée. Salutations à tes sœurs. Les sœurs Brunetta à Montréal à l'époque, c'était vraiment quelque chose. Sylvie Brunetta, qui était chez Donald K. Donald, et pour faire prendre encore plus conscience peut-être de l'importance musicale de Tina Turner, écoutez bien ce qui suit. Et voilà pour cet hommage à Tina Turner.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, le maire de Québec a décidé de lancer une campagne de sensibilisation, une opération quand même importante, pour amener les citoyens de Québec, puis de partout, hein, ça a un écho et un rayonnement plus important, d'être poli envers les employés municipaux. Ça veut dire les colbus, ça veut dire les brigadiers, brigadières, les gens qui sont sur le terrain, qui font le ménage dans les parcs, parce qu'on note, malheureusement, une espèce d'augmentation de violence verbale, de propos pratiquement haineux. On écoute un message, enfin un extrait du message qui a été présenté hier à Québec.
Je vais te le faire manger, ton constat.
Arrêtez de me faire chier.
Gang d'incompétents.
Tasse-toi du chemin, tu sers à rien.
Des insultes comme celle-ci, nos employés municipaux, vos employés, en subissent malheureusement tous les jours.
Le maire de Québec est avec nous, Bruno Marchand. Monsieur Marchand, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ça doit être sérieux pour qu'on pense à préparer une campagne comme celle-là. Là. C'est un problème là, qui n'est pas juste une anecdote, c'est quelque chose de récurrent.
Oui, c'est vrai. J'étais dans une réunion avec des cols bleus en décembre dernier et il y a un col bleu qui me prend à part et me dit « J'aimerais ça vous raconter mon expérience. » Et là, il me raconte ce qu'il vit, pas nécessairement tous les jours, mais ce qu'il vit de façon régulière, de temps en temps, mais qui fait en sorte que ça a de l'impact sur lui. Puis le gars qui est à côté, qui le connaît pas, lui disait, ben moi aussi, j'ai quelque chose à vous conter. Puis là, de fil en aiguille, les gens s'agglutinent autour de moi, puis ils me comptent des histoires de gens qui se font cracher sur leur véhicule, qui se font donner des coups de poing sur le bureau parce que les gens sont pas contents dans un bureau d'arrondissement, qui se font crier des noms, qui se font traiter irrespectueusement, qui se font bousculer, qui se font poursuivre en voiture, dont les gens parfois mettent leur voiture pour empêcher que leur camion de la ville passe. Et là, la somme s'accumule, et là, je leur dis, c'est inacceptable, on va faire quelque chose. Puis de fil en aiguille, on a parlé d'école blanche, on a parlé du personnel administratif, on a parlé de différents employés, des brigadiers, comme vous l'avez dit, des gens de circulation, des gens dans les parcs. Et c'est toujours la même histoire. Presque tous les employés l'ont vécu. Puis quand je leur ai dit, mais avez-vous envie de venir compter ça? Ils étaient tous pas prêts à venir compter, pas parce qu'il ne s'est pas arrivé pour de vrai, parce qu'ils avaient honte de ça, parce qu'ils ne savaient pas comment vivre ça, parce qu'on banalise ça, parce qu'on se dit, ben c'est pas grave. Mais moi, je dis, c'est temps que ça arrête. 90-95% des citoyens de Québec traitent bien les cols bleus. Puis ce que je leur dis, c'est continuer de le faire. Dites-leur merci parce que cette ville-là est belle grâce à col bleu puis l'ensemble des employés de la ville. Là, je peux parler des policiers, c'est la même affaire. Je peux parler des pompiers. Là. Mais maintenant, le 2-4% de gens qui sont innocents, qui traitent les gens avec irrespect, c'est terminé. On va prendre des actions.
J'imagine, puis c'est une hypothèse, là, puis je veux vous entendre là-dessus. L'administration municipale, les services municipaux, c'est ce qu'on appelle un service de proximité, c'est un pouvoir de proximité. On a accès au maire plus facilement qu'un ministre ou un conseiller d'arrondissement. Ce déferlement de haine qu'on voit, là, c'est une minorité, mais ça fait quand même beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Puis plusieurs de vos collègues même ont décidé de quitter parce que t'es pas obligé de vivre ça, là. Avez-vous l'impression que les élus municipaux, c'est un peu le premier punching bag qu'on rencontre?
Oui. Les gens j'avais rencontré des gens de Rennes qui étaient venus à Québec et ils m'avaient donné une expression extraordinaire. Ils m'avaient dit l'élu municipal, c'est le seul qui est à distance de claque du citoyen. Alors, il y a des gens qui sont capables de faire leur bonne représentation, d'exprimer pourquoi ils sont déçus, sont pas d'accord, sont capables d'avoir cette discussion-là. Mais il y a aussi des gens malhabiles, irrespectueux, violents, inappropriés, qui s'en servent pour abuser autant des élus que des employés. Et c'est malheureusement légion. Et savez-vous quoi, M. Arcand, les gens me disent que depuis la pandémie, c'est pire. Ça l'a augmenté à la fois en intensité et en nombre.
J'ai vu en France, il y a quoi, quelques jours à peine, là, un maire, président d'une conférence de maires, qui a fait le même type de sortie, là, qui a dit, et dans son cas, là, c'était de la violence verbale, mais aussi de la violence physique. Son véhicule a été incendié à 4 reprises depuis qu'il est maire, là. On est à un niveau de violence aussi très élevé. Est-ce qu'un message comme celui-là va aider? Sans doute, mais êtes-vous optimiste ou vous dites, faut faire quelque chose, mais on va commencer par ça?
Ah non, je suis optimiste. Pour moi, ces affaires-là, j'abandonne jamais. Je suis pas en train de dire que cette campagne-là va tout révolutionner. Là, loin de là, là, ça va en prendre des dizaines. Mais je suis en train de dire que ce qu'on va faire, cette campagne-là, mais aussi le fait de soutenir nos employés, d'avoir mis un comité en place, d'agir de façon plus rapide, de bien traiter nos employés, qu'ils sachent qu'ils sont entendus, qu'ils sont crus, qu'après ça, on puisse dire, ben s'il y a des enjeux particuliers avec un type de fonction, les brigadiers, par exemple, on va agir, on va continuer, on va ajouter des actions. Moi, je pense que ça va faire une différence. Puis avoir la réaction au Québec présentement, je pense que tous les 90%, là, les 95% de gens qui se comportent bien, si au lieu de juste de se dire, ben je vais faire mon petit bonhomme de chemin, là, on se permet d'éduquer les autres autour. Quand on voit quelque chose qui n'est pas normal, là, qui n'est pas normal, on devrait le dire, on devrait se positionner. Parce que ce qui permet au mal de progresser, là, c'est l'inaction des femmes et des hommes de bien. Mais je pense qu'il faut être dans l'action. Vous avez parlé des élus. C'est drôle, hier, je demandais à mes élus qu'est-ce qu'ils vivent. Puis je vais juste vous donner, puis c'est des choses qu'on a discutées longuement au Québec, mais qui ne sont pas encore réglées. Je vous donne juste quelques exemples. Qu'est-ce que t'as l'air niaiseuse? Hostie de crosseuse, la niaiseuse en chef. Étouffe-toi avec ton tramway, salope. Insignifiante fantoche. Plot municipal. Puis là, la liste, je pourrais vous la continuer, là. Ad nauseam, comme ça, là. Ben, ça, maintenant, là, on peut-tu dire comme communauté, là, il est temps que ça arrête? C'est pas comme ça qu'on va avoir les meilleurs élus. C'est pas comme ça qu'on va continuer d'améliorer nos communautés. On a le droit d'être contre. On a le droit de débattre. On a le droit de s'opposer. Mais de le faire dans le respect, c'est un minimum. La politesse, ça a encore sa place.
savez-vous quoi? Ce qui est fascinant aussi, c'est que les gens pardon, qui profèrent ces menaces, qui tiennent ces propos, ils seraient les premiers à être outrés de se faire traiter de cette façon-là.
Ben oui.
Il n'y a pas personne qui. Il y a personne qui veut se faire parler de même. Et eux se sentent comme dédouanés. Bon, probablement sur les réseaux sociaux, plus ou moins anonymes. Sur la rue, tu ne sais pas à qui t'as affaire. Mais est-ce que dans certains cas, je sais que la loi n'est pas simple, là, est-ce que dans certains cas, il y a des plaintes qui devraient aller plus loin que d'être reçues puis on passe à un autre appel?
Ah oui, puis nous, c'est ce qu'on s'engage à faire. Puis c'est pour ça que sur notre comité, il y a quelqu'un du service de police. On va traiter ce que les employés nous disent de façon rapide, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut poser comme action. Puis savez-vous quoi? On va le dire aux autres. Quand on va dire qu'on a eu des plaintes, on est allé là, puis il y a des gens qui ont été soit arrêtés, qui ont été rencontrés par la police, il y a eu des poursuites, on va le dire pour que ça influence les gens qui comprennent pas là, qu'il y a des risques à traiter le monde de façon complètement irrespectueuse, violente, raciste ou autre. Là. Et ça, il faut que ça serve de leçon. Vous avez raison de le dire. Il y a quelque chose dans une communauté comme ça. Si on prend pas soin les uns des autres, là, on se tire tous dans le pied. Les gens pensent que les employés municipaux, c'est des gens qui volent le job, c'est des gens qui sont des qui font rien puis qui gagnent un salaire de fou. Là. C'est pas le cas. Ces gens-là, ils travaillent fort. Nos villes sont belles parce qu'ils sont là pour ramasser les déchets, sont là pour entretenir nos parcs, sont là pour faire les inspections en architecture, pour aider nos citoyens dans différents besoins, pour des services de base, le déneigement. S'ils sont pas là, la ville n'existe pas. Alors, il faut arrêter de penser que ces gens-là viennent voler de l'argent, méritent parce qu'ils sont payés par l'argent de nos taxes, qu'on leur dise n'importe quoi. Ça n'a pas d'allure.
Monsieur Marchand, merci. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Bruno Marchand est le maire de Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on parle de divorce. C'est intéressant parce que selon un avocat américain spécialisé, la première cause de la séparation des couples serait imputable à la fatigue des femmes, c'est-à-dire une surcharge, que ce soit parce qu'elles travaillent, mais en même temps, elles combinent la responsabilité des opérations familiales. Et que les femmes disent, ben là, j'en peux plus, puis il faut que je change quelque chose dans ma vie. On s'est un peu posé la question, qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce qu'on peut faire des comparatifs? Qui d'autre pour nous en parler que Maître Sylvie Schirme? Maître Schirme, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ben des questions à vous poser ce matin. D'abord, première question, selon votre pratique, puis là, je sais pas s'il y a des chiffres, là, mais qui initie le plus souvent la requête de divorce? Est-ce que c'est l'homme? C'est la femme?
C'est la femme. Il n'y a pas de statistiques comme telles, mais on le voit, tout le monde dans le droit de la famille, on peut le voir, c'est la majorité des fois, pas tout le temps, la majorité, c'est les femmes qui vont initier soit la demande de divorce, soit la demande de séparation, si c'est des conjoints de fait.
OK. Et pour quelle raison, en fait, je vous demande votre opinion, pourquoi des femmes oui. plus que des hommes?
Mais je pense que qu'est-ce qui arrive, même si la société change puis les femmes commencent à gagner quasiment, ben pas tout le temps, mais commencent à gagner plus, autant que les hommes, dans certains cas plus que les hommes, on essaie d'atteindre un peu plus d'égalité. La réalité est qu'il y a une question financière aussi. Alors les hommes qui est le plus fortuné dans le couple parfois, qui va être le plus affecté financièrement, qui veut pas nécessairement amener la rupture, mais va tenir compte de la situation financière, il va peut-être endurer une situation dans laquelle lui aussi peut-être malheureux, va endurer une situation, il ne va pas nécessairement initier la demande. C'est plus les femmes qui sont plus exigeantes, si vous voulez, à ce niveau-là, en disant, là, c'est terminé, j'ai tout essayé, moi, je ne continue plus comme ça. Alors, on le voit que c'est plus la femme qui prend en charge cette situation-là.
Là, il y a sans doute un enjeu de génération, parce que on va entendre dire que les jeunes hommes s'impliquent davantage, les congés parentaux sont peut-être mieux partagés, les tâches ménagères, c'est peut-être mieux que c'était, mais c'est pas parfait. Est-ce que c'est vrai pour les plus jeunes que vous côtoyez que pour les plus âgés?
Oui, on voit une différence dans le sens que l'article là, au niveau des États-Unis, c'est pas qu'est-ce que j'entends dans mon cabinet. Ok, c'est, les femmes là ne demandent pas une séparation ou un divorce parce que monsieur a pas ramassé ses bossales dans la chambre à coucher. Ok, alors c'est beaucoup plus au niveau un manque de communication. C'est un débat. Qu'est-ce qui amène le divorce ou la séparation? Les enfants, l'approche différente au niveau de l'éducation des enfants, l'argent, l'approche différente qu'on a au niveau de l'argent, le manque de communication. Parfois, là, on voit dans des rencontres de négociation que les deux disent la même chose, mais avec des paroles différentes. Et on voit qu'il y avait un sérieux manque de communication de part et d'autre. Et évidemment, l'infidélité, qui est aussi un motif là, de séparation. Mais les hommes, écoutez, la garde partagée là, est de plus en plus présente dans nos dossiers. Et c'est pas pour rien. Les hommes sont dans la salle d'accouchement, ils accompagnent la femme pendant la grossesse. Ils sont beaucoup plus impliqués qu'avant. Ils siègent sur les conseils des CPE. Ils sont impliqués au niveau de l'école. On peut pas dire là que c'était il y a 30 ou 40 ans là, quand les hommes attendaient à l'extérieur de la salle d'accouchement pour savoir si c'était un gars ou une fille qui venait au monde. Alors, il y a une évolution. Les hommes sont impliqués au niveau des tâches ménagères, au niveau de l'épicerie, au niveau de faire à manger, etc. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des couples où c'est un problème? Certainement. Mais je peux pas dire que... Je suis pas du tout d'accord avec l'avocat américain qui dit que ça, c'est la raison de la séparation. Au Québec. Au Québec, on a des raisons très différentes et je trouve plus sérieuses, si vous voulez, au niveau de la rupture.
Puis il y a une capacité d'autonomie financière plus grande chez les femmes qu'avant aussi.
Mais certainement, on voit une différence et on commence à voir, moi j'ai des dossiers où est-ce que on commence à voir ces madames qui doivent payer une pension alimentaire pour les enfants à messieurs ou parfois même à messieurs. Alors on commence à changer là, les rôles là, ne sont plus traditionnels comme ils étaient dans les années 80-90. Il y a une évolution qui se fait parce que les deux sont au travail. C'est pour ça aussi la garde partagée est tellement omniprésente parce que les deux parents sont au travail. Ce n'est plus le cas de madame à la maison puis monsieur au travail. Alors c'est ça qu'on tient compte là, quand on rend des décisions au niveau par exemple, de la garde partagée.
Merci beaucoup, Maître Schirm. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Bonne journée. Maître Sylvie Schirm est avocate. Intéressant de plonger dans le monde des divorces, voir un peu comment ça change et ça évolue.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.